Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, serre-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun.
Et chers auditeurs, je reçois pour vous Ophélie Meyer, qui est psychologue clinicienne de formation et auteure qui vient nous présenter son livre « Les petits riens d'une société en mouvement ». Donc je vais la laisser se présenter. Bonjour Ophélie, comment ça va?
Bonjour, ça va bien. Merci. J'ai une formation en psychologie clinique à la base et je me suis spécialisée en anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Strasbourg. Voilà, et c'est dans ce cadre-là, le cadre de mon mémoire en anthropologie sur la maison Mimir, que je suis ici aujourd'hui, que j'ai voulu sortir des tiroirs et en faire un livre.
Et donc on va aller là tout de suite, hein, dans le vif du sujet. Donc ma première question, que représente la maison Mimir et pourquoi avoir choisi d'écrire sur le sujet, quoi?
Alors, j'ai rencontré la Maison Mimir en 2010, 2011 peut-être, au départ juste comme public, comme spectatrice. J'ai rencontré des personnes, j'y allais pour des événements et je m'y suis fait des amis. Et c'est après, en 2015, que j'y suis retournée, quand j'étais en fac d'anthropologie, que je revenais du Congo à cette époque-là et je rentrais en Master 2 en anthropologie. Mmh. Et j'ai commencé à m'investir en fait en tant que bénévole dans cette association. Et j'ai trouvé un lieu assez incroyable. J'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait. J'ai essayé de m'investir dedans. Et j'ai petit à petit, je me suis dit oh bah tiens, au lieu de repartir sur un terrain lointain. Alors que j'étais à Strasbourg et qu'il fallait aussi que je travaille, hein, tout simplement pour payer mes études, je me suis dit que ben, je pouvais investir aussi une petite tribu de ce monde-là, du monde strasbourgeois, pour pouvoir en faire un mémoire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cet endroit. D'accord. Et ben, ce que représente la maison Mimir, je dirais que... Bah, très vite, en m'investissant dans cette maison, en y mettant du mien, j'y ai fait énormément de rencontres et j'y ai trouvé un endroit, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, hein, c'est un endroit où je me sentais respirer par rapport à d'autres endroits où j'ai pu faire des stages en tant que psychologue stagiaire ou des métiers, des emplois que j'avais pu avoir là dans des grandes institutions. Ici à la Maison Mimir, je sentais qu'il y avait vraiment une effervescence de possible et c'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin en fait.
Okay,
ouais, il y avait quelque chose qui s'y passait pour moi.
Ok, très bien. Ouais. J'ai lu le livre, mais franchement je suis ravi. Enfin, je te présente déjà mes félicitations parce que j'aime ta plume, la façon dont tu as écrit, enfin ta façon d'écrire du coup. Et dans l'introduction sur la page 17, il me semble, si je ne me trompe pas, bah, si tu me trompes, tu me dis.
Je ne connais pas par cœur toutes les pages. Mais...
oui, bien sûr, tu ne peux pas connaître.
J'ai confiance.
Yes. Donc sur la page 17, tu évoques le fait que Jean-Pierre Lebrun, qui fait le lien entre la mondialisation et l'individualisme, est-ce que tu peux nous dire en quoi la maison Mimir change un peu ce système-là?
Ce que je dis dans cette partie du livre, c'est que qu'il y a deux choses qui évoluent en parallèle. C'est que d'un côté, il y a une mondialisation, une croissance avec une accélération de beaucoup de choses, notamment les débuts des transports dans la mondialisation. On peut voyager beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et aussi au niveau d'Internet, les flux sont beaucoup plus rapides, on peut rencontrer des gens très loin. Et à côté de ça, il dit qu'il y a, à contrario, une montée de l'individualisme. Et j'ai l'impression qu'à la Maison Mimir, il y a un peu cette conscience de cette montée de plus en plus de l'individualisme. et du chacun pour soi. Mmh. Et que là-bas, ils essayent de faire autrement et de faire collectif. Il y a Thierry Gogel d'Almondan qui en parle dans un de ses articles sur la Maison Lumière, qui dit que c'est un lieu où on fait le réseau, c'est un réseau social vrai. On n'est pas dans le réseau social sur Internet, mais dans un vrai réseau, une toile qui se tisse et des gens qui se rencontrent et qui essayent de construire ensemble et de faire ensemble en mettant en œuvre le collectif pour pouvoir aller aussi plus loin. Il y a cet adage qui dit « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et donc on essaye de construire, il n'y a pas d'argent, mais on essaye de construire ensemble, et en fait avec les idées de chacun, les petites mains de chacun, les petites pensées de chacun, on arrive à construire quelque chose qui se tisse, qui prend sens en fait, tous ensemble.
Tu racontes que la première fois que tu es arrivé à la Maison Mimir, c'était au cours d'une assemblée générale, et que chacun racontait un peu de son vécu et de son expérience à la maison. Est-ce que tu peux nous relater ce moment-là?
Alors, je revenais d'Afrique et j'ai recroisé une amie. Alors, dans la Maison Lumière, tout est une histoire de rencontre, très souvent. Et je revenais d'Afrique et je recroise une amie avec qui j'étais en théâtre au lycée, Eugénie, qui revenait aussi d'Afrique et qui m'invite à son anniversaire à ce moment-là. Et donc j'y vais. Et le jour de son anniversaire, il y avait beaucoup de mimériens et de mimériennes avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont proposé de participer à cette assemblée générale en me disant viens, en fait, il y a matière à faire là. La maison, elle a fermé, on est en train de tout reconstruire, on est en train de revoir à la fois comment reconstruire la maison concrètement, mais aussi comment reconstruire notre collectif. Il y avait une envie de faire de monter notamment une coprésidence et plus un président, un trésorier, secrétaire, mais qui est vraiment que des présidents dans l'association, et qui ait une pensée autour de cette construction-là, autour de la construction d'une charte, etc., de la raison d'être, enfin de revenir sur ces bases-là pour pouvoir construire. Et donc ils m'ont invité à ce moment-là, parce qu'il y avait matière à penser et à faire. Et j'y suis allée, c'était le lendemain, j'y suis retournée. Et donc en tant qu'invitée, c'était un peu particulier, parce que j'étais toute timide, je connaissais pas grand monde, ou très peu, d'événements comme ça où je les avais déjà croisés, mais je n'avais encore rien construit avec aucun d'entre eux. Et on a fait ce tour de table, je m'y attendais pas, et tout le monde était là, avait quand même un projet, une envie particulière, ils savaient pourquoi ils étaient là, et moi je suis arrivée, je me dis je suis là parce qu'on m'a invitée. Et en fait, à la fin, il y a eu beaucoup de discussions. Alors là, je ne saurais même plus dire. Je ne prenais pas encore des notes à cette époque-là de tout ce qui s'est passé. Mais je me souviens très bien de ce moment où je me dis « qu'est-ce que je fous là ? J'en sais rien ». Et puis le moment de la fin de l'AG où ils ont décidé de poser des feuilles avec plein de commissions de réflexion autour de thèmes différents. Une commission autour de la bagagerie de la Maison Mimir, une bagagerie qui accueille les bagages de personnes qui sont à la rue ou de personnes qui sont en voyage, qui ont toujours leur sac sur leur dos et qui là peuvent s'en délester gratuitement. Une commission sur la question des arts plastiques, qui est très importante aussi à la Maison Mimir, de qu'est-ce qu'on fait autour de la musique, autour de la constitution de la collégiale, de... Qu'est-ce qu'il y avait encore du chantier, évidemment. Plein de petites commissions. Et puis en fait, je me vois encore. J'avais pris des photos ce jour-là et je me vois m'inscrire dans quelques commissions pour aller travailler avec eux et réfléchir avec eux.
Est-ce que tu as été surprise par tout ce qui se passait, par tout ce que tu voyais?
Oui, j'étais surprise de ce que je voyais et j'y comprenais pas grand-chose aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, mais je ne savais pas qui faisait trop quoi, comment que ça marchait, quel lien on faisait, comment que ça fonctionnait, quel était le mode politique de fonctionnement de cette maison. Et puis toutes ces personnes, elles, c'était quoi leur histoire aussi, quoi. Elles avaient toutes des histoires à côté de cette maison, mais ici, d'un coup, c'est presque comme si... tout s'effacer. On était là pour un but commun et on y allait. Et l'histoire de chacun, je la connaissais pas. Et le fonctionnement, enfin, c'était très, vraiment très, très abscon au départ.
Mmh, oui, je comprends. Ouais. Dans le livre, hein, tu as interviewé une dizaine de personnes. Et tu en parles d'ailleurs beaucoup dans le livre. Et si on te demandait ce même exercice, que dirais-tu ?
Ben en fait, bon, juste pour expliquer comment j'ai fonctionné aussi par rapport aux entretiens, c'est que c'était des entretiens qui étaient complètement libres, mais avec comme support la photographie. Donc j'avais distribué des appareils photo jetables. C'était à une soirée au Molo d'Oeil où il y avait tout le monde et j'avais donné des appareils photo jetables à certaines personnes en leur demandant si elles voulaient bien jouer le jeu, de prendre en photo ce qu'elles voulaient, mais en se posant toujours la question, c'est quoi Mimir pour moi ? Et après, une fois qu'elles avaient pris ces photos, je les ai développées, on s'est revues et elles me parlaient des photos qu'elles avaient prises. Donc, elles me racontaient. Et donc, j'ai eu énormément d'éléments sur l'histoire, sur le fonctionnement et sur l'imaginaire. C'est vraiment les trois grands thèmes que j'ai pu repérer dans ce qu'on me racontait. Et j'ai et si je devais faire ça, c'est un petit peu ça la question, quoi. Du coup, c'est qu'est-ce que je prendrais en photo aujourd'hui ? Bah, ça a déjà bien changé parce que à l'époque là, c'était quand même une époque particulière parce qu'ils avaient tout cassé dans la maison.
C'était en quelle année du coup ?
C'était en 2016. 2016, ça a fermé en 2015-2016 et ça a rouvert en 2017, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, en 2017. Donc aujourd'hui, bah, la maison, elle n'est plus du tout en chantier. En tout cas, le rez-de-chaussée, il y a toujours un petit peu de chantier, mais franchement, quand on y va, je suis toujours agréablement surprise de voir à quel point c'est bien rangé, c'est propre. Enfin, nous, on n'y arrivait pas, quoi. Il y avait tout le temps de la récup, il y avait tout le temps plein de choses qu'on stockait pour pouvoir faire le chantier. Mmh. Aujourd'hui, quand tu prends la maison en photo, il y a de la couleur. Il y a énormément de couleurs. Il n'y a plus cette poussière là, qu'il y avait partout à cette époque-là. Les murs ont été repeints dans un beau vert criant, vert pomme, comme ça. Donc, je pense que les photos d'aujourd'hui, elles seraient plus colorées et plus teintées de cet imaginaire. Là, il fallait un vrai travail et ça ne semblait pas très difficile en fait pour les personnes qui ont joué le jeu. Hein, mais il y avait un vrai travail d'imagination pour se projeter dans la maison de rêve qu'ils imaginaient. Ils y voyaient un petit chalet, ils y voyaient un tableau de la laitière, ils y voyaient le clair-obscur, enfin il y avait toute une poésie avec la cabane dans l'arbre. Aujourd'hui, on aurait moins besoin d'avoir ce talent d'imagination pour pouvoir avoir déjà de la couleur. Qu'est-ce que je prendrais en photo ? Je pense que je prendrais le mur en photo, le mur de la cour, parce que c'était un beau moment, c'était au début de la réouverture de Mimir, où ils ont monté une pièce de théâtre, un festival de micro-théâtre, pour être plus juste, et vous avez fait venir des peintres et des artistes de Paris pour repeindre tout le mur au fond de la cour, et c'était très beau, parce que chacun individuellement peignait, sans se concerter, et en fait, petit à petit, ils se rapprochaient les uns des autres, et en fait, leur dessin prenait corps avec le dessin des autres, ces dessins se sont mélangés et en ont fait plus qu'un.
En fait, ça représentait Mimir alors, oui.
Bah, un peu.
Un petit peu,
oui. Mais oui. Sans que ces personnes ne sachent trop où elles sont, elles avaient certainement compris ou capté des choses dans leur sensibilité, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est plein de personnes, plein de singularités qui viennent et qui apportent leur petite pierre et qui fabriquent un joli château.
Oui, ah, c'est beau tout ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Mimir, Ophélie ?
Qu'est-ce qui me plaît le plus à la maison Mimir ? Je dirais ça aussi. Mm-hmm. Ce qui est le plus dur à la maison Mimir, c'est de réussir à s'entendre et à prendre des décisions ensemble dans des moments qui peuvent être des moments de crise, des moments charnières, des moments où il y a des choses, des violences qui peuvent se passer aussi. Hein. Tout n'est pas tout beau à la maison Mimir. Mais il y a cette envie de construire de construire ensemble. Il y a ce croisement de singularité et de rencontres et de créativité qui d'un coup permet d'envisager un possible. J'entendais souvent que c'est un peu une pâte à modeler. Mimir, et qu'en fait tu peux venir et puis hop, tu modèles un peu en fonction de ce que tu as envie. Et en fait tu peux venir avec n'importe quelle envie, n'importe quel projet, et on va en fait te donner les moyens de le plus possible et toujours sans argent, les moyens humains, les moyens humains et matériels quand même, de pouvoir aller au bout de ta démarche, comme faire un livre par exemple.
Absolument. Il y a cette phrase qui revient beaucoup dans le livre, que toi tu dis, les autres que tu interviewais disent aussi. Mimir, c'est chouette, mais ça n'a pas toujours été facile. Quel est ton plus mauvais souvenir et ta plus grande difficulté à la maison Mimir ?
Je dirais parfois d'être entendu. Juste de... Je l'écris dans le livre, j'essaie de relever les éléments qui sont des rapports de domination et de pouvoir. On essaye à la maison Mimir de ne pas fonctionner en hiérarchie. Il n'y a pas de chef. Donc on prend les décisions ensemble. Et donc c'est très intéressant parce qu'on essaye, on tente l'utopie d'une égalité. Sauf que celle-ci, en fait, elle n'existe pas. Elle n'est pas, on n'est pas égaux. On est tous très différents et on a tous des difficultés, on a tous nos difficultés, on a tous nos failles, et on a tous nos pulsions aussi, nos violences, les choses qui nous font violence, notre sensibilité. Et dans tout ça, il faut composer ensemble et quand même prendre des décisions ensemble. Et il y a d'autres rapports de pouvoir et de domination qui peuvent se révéler dans ces moments-là, comme celui de la parole, de prendre la parole. Celui qui parle beaucoup, et ben en fait il sera bien plus écouté qu'un autre. Et ça veut pas dire qu'il dit pas plus de conneries qu'un autre, et ça parfois ça peut être difficile. Alors je pense à certaines personnes qui ne parlent pas en fait en réunion, en assemblée générale, mais qui vont trouver un autre moyen de pouvoir s'exprimer aussi dans la maison. Mais je pense qu'il y a des fois des points de crispation où on peut se sentir pas entendu, pas considéré. Puis on est sûr en plus dans notre petit ego qu'on a raison, mais l'autre il veut pas nous entendre, les autres ne veulent pas nous entendre, et puis chacun pense pareil. Et puis comment on fait pour mettre tout sur la table et faire en sorte que ça soit plus l'ego qui parle et juste comment on va faire pour prendre une décision ensemble sans que ça soit le plus fort celui qui parle plus qui décide, ou celui qui est là depuis plus longtemps qui décide, etc. Donc ça c'est une difficulté. Une grande difficulté. Il y en avait d'autres, hein, la place, j'en parle un petit peu, mais la question de l'alcool, en fait, qui est partout dans notre société, avec des personnes qui peuvent aussi se retrouver chez Mimir et qui boivent beaucoup.
Du coup, tu introduis en fait ma prochaine question. Vas-y.
Ouais, ok, très bien. Bah oui, c'est une des difficultés que j'ai pu avoir, c'est de me retrouver aussi avec des camarades avec qui on a pris des décisions autour d'une table en se disant bon, alors, quand c'est pas ouvert au public, il n'y a pas d'alcool. Non, pardon, je me trompe. C'est quand il n'y a pas de vente d'alcool, en soirée par exemple, quand on fait un bœuf bouffe le mercredi, eh ben, il n'y a pas d'alcool. Parce qu'on avait décidé tous ensemble qu'il n'y ait pas d'alcool. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alcool et je joue le jeu. De ne pas boire une bière par exemple, comme je ferais à l'apéro. De manière assez banale. Ici, on va se boire autre chose, un café, un jus, quelque chose. Et il y a des personnes qui vont venir et qui vont ramener de l'alcool et on va leur demander gentiment de la déposer. Sauf que quand on a une personne avec qui on a pris la décision, qui fait partie de la collégiale, qui, en fait, va te dire « Non, il n'y a pas d'alcool ce soir, mais qui, en catimini, va quand même un petit peu se servir une bière », que c'est... Là, c'était un petit peu fâchant pour moi, et ce sont des moments qui sont crispants pour moi. Sachant qu'il n'y a aucun souci, hein. Si on décide maintenant qu'il y a de l'alcool, et ben faisons-le, mais ne soyons pas de mauvaise foi aussi. Donc c'était des choses qui moi me crispaient beaucoup. Et qui dit alcool dit aussi Il y a aussi parfois des états où en fait, il y a des personnes qui pètent des plombs et qui font n'importe quoi, des moments de violence, des moments de bagarre. Ça a amené des choses comme ça. Et que voilà, si on essaie de faire attention et de se protéger de l'alcool le temps d'un bœuf bouffe, jouons le jeu.
Ok, ouais. Alors on sait que la maison Mimir au départ hein, c'était trois potes, Stouff, Renaud et Titib. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment les filles ont réussi à se faire leur place?
Ça c'est pas facile non plus.
Oui, c'est ce que j'avais lu.
c'est rigolo parce que j'en discutais avec une amie que je me suis faite à la maison Mimir. Qui me racontait en fait qu'au début, quand elle est arrivée, c'était elle en tant que femme avait un peu du mal, et notamment avec les autres femmes qui étaient déjà sur place. Quand tu arrives à la maison Lumière, tu peux te retrouver aussi avec des garçons qui sont un peu qui peuvent draguer, qui viennent dans un rapport de séduction qui peuvent être un petit peu des fois un peu lourds pour une femme, et puis des filles qui peuvent ne pas être très, très accueillantes. Alors pourquoi ça, je ne saurais le dire. J'ai pas trop analysé ça, mais la copine me disait ça, quoi. C'était pas facile et qu'elles étaient plusieurs à se rendre compte, qu'elles étaient trois filles à se rendre compte qu'en fait, elles étaient arrivées au même moment chez Mimir. Et donc elles se sont mises ensemble un petit peu, et puis en se disant, bon, on va faire des petites choses ensemble. Et puis un jour, elles ont fait des crêpes, et là, elles étaient très contentes de voir que, en fait, ça fédérait et ça permettait de commencer à ce qu'il y ait du lien. Et d'ailleurs, elle me disait, bah, je me rappelle de toi qui est arrivée dans le Barakawa en disant, oh waouh, vous avez fait des crêpes, trop bien. Et elle s'était rassurée en se disant que, bah oui, en fait, petit à petit, tu fais une place. Et femme ou homme, hein, je pense que c'est pas facile parce que c'est un peu une petite famille qui se crée aussi.
Oui. Ouais, j'ai posé la question parce que je ne sais pas si c'est dans le livre ou dans notre discussion où tu disais qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de femmes au départ qui partaient, qui ne restaient pas. Et peut-être à cause aussi de ce rapport un peu de force, de dominance homme-femme. C'est pas pour dire que les cofondateurs étaient des machos, mais simplement c'était leur idée quoi au départ.
Je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'on laisse une place à la femme et qu'il y a une volonté de féminisme, il y a une volonté d'essayer de faire attention au côté un peu viriliste chez les hommes. C'est Flo qui en parlait beaucoup de ce rapport de domination homme-femme. Je me souviens de quand il m'en parlait, mais que bon, ouais, bah, les hommes, des fois, ils restent hommes et éduqués comme ça, et que c'est aux hommes de faire attention aussi à ça. Et donc, c'est dans la discussion, attention là, vous, là, tu joues un peu le macho, là, on va se calmer. Moi, je me rappelle d'un moment aussi où on était en train de faire un chantier et un homme me prend l'outil des mains pour le faire à ma place.
Okay, ouais.
Et
ouais,
c'était très perturbant parce que bah oui, j'ai moins de force, mais parfois on va trouver plus de techniques si on n'a pas de force.
Ouais.
Donc ce sont des choses où on essaie d'être attentif. Il y a des personnes qui vont être aussi plus attentives que d'autres. Et puis d'autres personnes qui arrivent et qui n'ont pas entendu toutes les réflexions qu'il y a pu avoir lors d'une réunion ou d'une autre. Donc c'est vraiment essayer de communiquer un maximum autour de ça. Et je pense qu'il faut pouvoir quand tu viens au début accepter une place et puis essayer de faire évoluer sa propre place au sein de la maison Mimir, mais comme partout. Et d'être attentif à ça, sans venir toujours traiter de macho celui qui vient dire ça, ou alors voilà, on se sent dominé, c'est pas forcément un rapport, la question du rapport homme-femme, pas forcément, mais de rester toujours attentif à ça, effectivement. Et c'est pas évident, parce que oui, tout le monde n'est pas en train de penser les rapports homme-femme, en fait.
Juste pour retourner un tout petit peu en arrière... Oui. Là où tu parlais de l'alcool, Donc, il est vrai que la maison Mimir a une gestion plutôt originale hein, sur l'alcool, sur la drogue et la violence. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots ?
Je pense que ce sont des questions qu'on peut retrouver partout dans la société, mais ici, dans un microcosme un peu fermé quand même à l'extérieur, vont se rejouer des choses de cet ordre-là, de la violence, un rapport à l'alcool qui peut être parfois exacerbé aussi. Avec des personnes en situation de précarité, avec des difficultés aussi par rapport à l'alcool, hein, qui est c'est la drogue dont je parle le plus, hein, par rapport à fumer des joints ou pas fumer des joints. Enfin, il y a quelque chose. C'est Renaud qui en parlait bien à l'époque. C'était que, en fait, on vient pas en faire un tabou. On vient, on sait que c'est là et on en parle. Ouais. Et on n'essaye pas de faire comme si ça n'existait pas ou de faire dans la répression. Parce que ça existe et il faut faire avec. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et de pas être dans une espèce d'hypocrisie par rapport à toutes ces choses. Mmh. Et comment, en fait, c'est toujours la même réponse. En tout cas, on essaye de prendre une décision ensemble par rapport à ces questions-là. Quand il y a un acte de violence, qu'une personne a été violente dans la maison, bah, en fait, on en discute, on se met autour d'une table, on se demande bah, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on fait. Avec des tentatives de dire, bon, bah, en fait, toi, tu vas t'éloigner pendant quelques mois, on en rediscutera en AG par la suite, mais là, ce qui s'est passé, c'est pas possible. Donc voilà, maintenant tu pars, là, tu as dépassé une limite quand même, parce que c'est vrai que le cadre, il est un peu flottant, mais il y a quand même des limites. Et c'est à prendre en considération, on n'est pas en train. Donc, tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà.
Ok, d'accord. Il y a aussi la création, enfin la bagagerie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution aujourd'hui, ou, enfin, de la création, où c'en est aujourd'hui ?
Alors ça, c'était dès le départ. Hein. Ils ont voulu... c'était tout de suite inscrit dans leur projet que la bagagerie était très importante parce qu'il n'y en avait pas à Strasbourg et que c'était très important pour les personnes qui sont à la rue de pouvoir avoir un lieu où poser leur bagage. Donc très vite, ça a été tout de suite, ça a été mis en place, une bagagerie gratuite, mise à disposition sur des temps d'ouverture pour les personnes qui sont à la rue. Et donc ils ont fait, elle a évolué. Cette bagagerie, parce que ce qui était difficile à l'époque, c'était qu'en fait, au bout d'un moment, ben, c'était très souvent, il n'y avait pas d'horaire tout le temps, donc il y avait des gens qui venaient pour la bagagerie de manière régulière, et que c'était assez épuisant pour les personnes qui y étaient. Ils n'avaient plus trop envie d'y aller à la bagagerie, bon, bah, ça sonne, c'est quelqu'un pour le bagage, moi qui y va, moi j'ai pas envie. Il y a eu un moment donné, comme ça, ils en avaient marre, et en fait, au moment où on a remonté la collégiale et retravaillé toutes ces questions-là, on a essayé de poser un cadre avec un règlement de la bagagerie, avec des horaires d'ouverture, pour que ça soit un petit peu plus cadré, mais juste pour pas épuiser aussi les bénévoles de cette bagagerie. Donc aujourd'hui, bon, on a refait tout un chantier pour fabriquer des meubles pour les bagages, pour que ça soit clair aussi que chaque casier, que chaque personne puisse avoir un casier pour mettre des bagages, qu'une fois qu'il n'y a plus de place, ben, on peut pas accueillir les bagages de tout Strasbourg. Donc ben, quand il n'y a plus de place, on va attendre un peu. Voilà, essayer de poser quelque chose de pas croire qu'on est les sauveurs du monde entier. Mmh. C'est pas possible, c'est qu'à un moment donné, ben, c'est plein. Et s'il y en a un qui a envie, ou s'il y a une association, ou si que la mairie aussi considère que ben, en fait, il y a des besoins, il faut se rendre compte aussi que ben, nous, on est plein et il y a vraiment de la demande. Donc il y avait vraiment cette envie-là de poser quelque chose d'un peu plus cadré et de clair pour tout le monde, pour que ça soit moins violent, pour que ça fasse moins violence aussi à toutes les personnes.
D'accord, ouais.
Et puis voilà, aujourd'hui, alors je ne connais pas les horaires aujourd'hui, je crois qu'elle est ouverte peut-être deux fois par semaine. Elle était ouverte ce matin, de 9h à midi, avec une équipe qui tient bien et ça semble assez bien se passer aujourd'hui pour les gens. Ils arrivent, ils viennent poser leurs bagages, ils ont une carte d'usager de la bagagerie et du coup, ils peuvent venir comme ils veulent. On leur propose un café en même temps, en fonction de ce qui se passe. Des fois, il y a des petits croissants, voilà. Et l'important, c'est l'accueil aussi dans la bagagerie. C'est de se poser, se rencontrer, se parler un petit peu, prendre le temps d'eux. Et puis après, récupérer des affaires, pouvoir les reposer. Et si des personnes ne viennent plus, au bout d'un moment, on essaye de les rappeler, de les recontacter, de savoir si tout va bien aussi pour elles. Et voilà, garder un lien avec chacun.
Très bien. La première fois que je suis arrivé à la Maison Bemire, il y avait un slogan sur le mur qui disait « Tous les hommes naissent libres et égaux, mais à la Maison Bemire, c'est une réalité. » En fait, le slogan m'a touché. Est-ce qu'il y a une histoire ? Enfin, forcément, il y a une histoire. Est-ce que vous savez la personne qui l'a écrit ? Est-ce que c'était une réflexion bien définie ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière, quoi ?
Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais oui, bah alors je disais que justement, on n'est pas égaux en plus au tout début. Je pense qu'il y a une volonté de faire attention, en tout cas. Okay. Et que c'est peut-être davantage possible parce que c'est un petit groupe. Et qu'on peut se causer, et que donc on se connaît, et qu'on peut sans cesse réajuster en fait. Mais moi je me sens sacrément libre quand je vais à la Maison Mimire et je me sens respirer. Ça c'est la réalité, elle est là. Quand on arrive là-bas, il y a quelque chose de la vie simple, non pas simpliste, mais d'une simplicité comme ça dans les échanges et dans la rencontre et dans l'accueil, qui est très agréable. Et voilà. Si même si t'as du pognon, un travail et une grosse BMW, et ben on t'accueillera pareil que si t'as rien.
Absolument.
Et ça c'est très agréable. Oui. Et je pense ça me rappelle une anecdote d'un jour où. On avait fait un événement le soir à la Maison Lumière, j'en parle aussi dans le bouquin d'ailleurs. Je me rappelle de l'événement qui était un chouette moment, je crois que c'était pour le marathon de la frite avec l'asso Pelpas. Et on avait terminé le soir, tout le monde se dit au revoir, on range, je disais au revoir en faisant. Alors il n'y avait pas encore de coronavirus jadis à cette époque-là. Je fais les bises aux gens pour leur dire bonne soirée, rentrez bien, voilà. Et puis on sort boire un dernier verre à l'extérieur dans un autre bar. Et on avait encore nos verres de cet événement. Et on arrive devant un gros monsieur devant. C'était un bar, je sais plus, au centre-ville de Strasbourg. Et il y avait un mec de la sécurité qui nous a accueillis à sa manière. Il m'avait empêché de rentrer. Il m'a dit, il y a quoi là-dedans ? Je dis, il y a de la bière. Et en fait, il me dit, non, tu rentres pas. Et je comprenais pas, mais littéralement. J'étais face à quelqu'un que je comprenais pas pourquoi il me disait, je rentrais pas, parce que j'avais un verre en main. Et là, je me rappelle de cette confrontation entre cet accueil pour se dire au revoir aussi à la Maison Mimire et ce moment-là où d'un coup quelqu'un m'empêche de rentrer dans un lieu parce que j'avais un verre en main et c'était incompréhensible pour moi.
C'est un peu contradictoire avec un peu les idées de la maison, quoi. Ouais.
Oui, bah oui, complètement. Puis en plus, j'ai dû lui dire un truc qui lui a pas plu parce que du coup, il m'a empêché à jamais et pour toujours, pour la soirée, de rentrer à l'intérieur et que c'était fini. Voilà. Et il avait décidé que je ne rentrerais plus. J'étais très triste. J'étais très dur pour moi parce que je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait.
Alors, ton livre, Ophélie, moi, je le trouve très original du fait que tu l'as écrit toute seule, du début à la fin. Sans pouvoir chercher une maison d'édition. Pourquoi et comment ?
Très vite, en ayant écrit le mémoire, je me suis dit que ce serait dommage, parce que je raconte aussi, je raconte donc la petite histoire de comment sont arrivés Stouff, Thibault et Renaud dans la maison, comment se sont greffés après Joe, Flo, Renard, enfin bien d'autres qui sont venus autour. Je raconte toute cette histoire de la maison Mimir, je raconte l'histoire ancienne, que des fouilles d'un archéologue qui avait travaillé sur les maisons de la rue Préchter et dont Maison Mimir en fait partie. Et je racontais ce fonctionnement, je racontais cet imaginaire et je me disais mais c'est pas possible que ça reste dans les tiroirs, il faut que les personnes de Mimir puissent le lire, que d'autres personnes qui veulent créer, monter des lieux, squatter des lieux, qui sachent comment faire pour que les choses se passent bien, qu'on a tous les mêmes difficultés aussi, on n'y répond pas de la même manière mais finalement les enjeux se répètent en fait dans ces endroits et pour que le public aussi puisse... des personnes qui néophytes, qui ne connaissent pas du tout ces mondes-là, puissent aussi en entendre quelque chose, en lire quelque chose, et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit un lieu obscur de délinquants. Mmh. Ça, c'était vraiment important. Et donc, j'avais vraiment envie de le sortir pour qu'il soit lu. Et je me suis dit, bon, je vais chercher une maison d'édition, mais très vite, en fait, je me retrouvais face à des lignes éditoriales qui correspondaient pas à la manière dont je projetais en fait un livre sur la maison Mimir. Et comme à la maison Mimir, on prône le fais-le par toi-même, le fais-le toi-même, le do it yourself, je me suis dit que, ben, en fait, il fallait que j'aille au bout, au bout de l'observation participante de l'ethnologue, en le fabriquant aussi moi-même. Et comme quand on rencontre des gens dans cette association, ça permet de créer des liens avec plein d'associations et plein d'artistes, artisans qui ont des compétences qui nous mettent en... à nous donner aussi, à nous partager. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais le fabriquer, ce livre. Je vais apprendre à mettre en page. Je vais apprendre à faire de la retouche photo. Et puis apprendre à relier. Et puis la sérigraphie, j'ai rencontré Manouche de Papier Gâchette à qui j'ai parlé de ce projet. Il m'a dit, bah ouais, moi ça me plairait bien de t'accompagner sur ce projet. Et en fait, depuis le début, Papier Gâchette, et notamment Manouche, m'a accompagné à fabriquer le livre. Alors ça a été long, hein, ça a été 2 ans de fabrication, parce que ça demande du temps, en fait, la fabrication d'un livre. Mais c'était une volonté propre que ce livre soit aussi un objet qui vienne de là, de cet endroit-là. Et voilà, je l'ai fabriqué... J'ai pas imprimé les pages. J'ai quand même allé voir un imprimeur parce que 300 pages, c'était quand même un peu long en typographie. Ouais. Mais j'aurais bien voulu, à un moment donné, je m'étais dit, oh, je pourrais fabriquer le papier. Mais c'était déjà assez long, en fait.
Ouais. Très bien. Et pour terminer, Ophélie, moi, le livre, je le recommande à tout le monde, hein, enfin, à mes auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que s'il est. Peut être acheté en ligne, en librairie, s'ils ont envie de l'avoir. Est-ce qu'il y a un moyen ?
Alors, on a fabriqué 104 livres. Mmh. Et en fait, ils ont tous été réservés et vendus. Donc, l'idéal, maintenant que j'ai été au bout de la démarche, j'aimerais bien trouver un éditeur. Ok. Pour pouvoir le sortir, parce qu'il y a des personnes qui effectivement m'ont demandé le jour de la sortie du livre. Il y a plein de gens qui ont dû que j'ai dû renvoyer parce qu'il y avait déjà plus de livres et j'étais embêtée. Donc on a fait une liste de personnes qui seraient intéressées dans le cas où je trouverais un éditeur. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce livre, qu'elles me contactent. Il y a un site internet aussi, c'est azqs.com. Hashtag les petits riens sur internet. Bon, les petits maisons Mimir, les petits riens, normalement on trouve, hein, sur les moteurs de recherche. Donc voilà, qu'on me contacte et volontiers je rajoute sur la liste et j'espère trouver un éditeur qui sera prêt à me suivre. Alors ce sera plus fabriqué de manière artisanale, mais ça restera dans la continuité.
Très bien. Bah, dans tous les cas, si jamais ils ont des difficultés à retrouver sur internet, ils peuvent. Écrire sur la page Instagram du podcast, donc c'est zonedeconfort.podcast, et je pourrais les renvoyer directement sur le site, quoi.
Voilà. Super.
Très bien.
Merci beaucoup.
Je t'en prie, Ophélie, merci de nous avoir honorés aujourd'hui.
Merci à toi pour ton invitation.
Merci, tu es la bienvenue, hein. Tu es chez toi, n'hésite pas à revenir quand tu veux.
C'est très confortable, hein, chez toi.
Super, merci, et bonne soirée, au revoir.
Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram zondeconfort.podcast.